Ruth, chapitre 4. Nous lirons tout le chapitre. Et Boaz monta à la porte et s'assit là. Et voici, celui qui avait le droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Et il dit, « Toi un tel, détourne-toi, assieds-toi ici. » Et il se détourna et s'assit. Et Boaz prit 10 hommes des anciens de la ville et dit, « Asseyez-vous ici. » Et ils s'assirent. Et il dit à celui qui avait le droit de rachat, « Naomi, qui est revenue des champs de Moab, vend la pièce de terre qui était à notre frère Élimélec. Et moi je me suis dit, je t'en informerai et je te dirai, achète-la en la présence des habitants et en la présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Et si tu ne veux pas racheter, déclare-le-moi afin que je le sache. » Car il n'y a personne que toi pour racheter, et moi je suis après toi. » Et il dit, « Je rachèterai. » Et Boaz dit, « Au jour que tu achèteras le champ de la main de Naomi, tu l'achèteras aussi de Ruth, la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt sur son héritage. » Et celui qui avait le droit de rachat dit, « Je ne puis pas le racheter pour moi, de peur que je ne ruine mon héritage. » Use-toi de mon droit de rachat, car je ne puis racheter. Or, c'était jadis une coutume en Israël, en cas de rachat ou d'échange, que pour confirmer toute affaire, l'un ôtait sa sandale et la donnait à l'autre. C'était là une coutume en Israël. Et celui qui avait le droit de rachat dit à Boaz, achète pour toi. Et il ôta sa sandale. Et Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, « Vous êtes aujourd'hui témoins que j'ai acheté de la main de Naomi tout ce qui était à Élimélec et tout ce qui était à Kilion et à Maclon, et aussi que je me suis acquis pour femme Ruth, la Moabite, la femme de Maclon, pour relever le nom du défunt sur son héritage, afin que le nom du défunt ne soit pas retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui. » Et tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, « Nous en sommes témoins. Fasse l'Éternel que la femme qui entre dans ta maison soit comme Rachel et comme Léa, qui toutes deux ont bâti la maison d'Israël. Et deviens puissant dans Éphrata, et fais-toi un nom dans Bethléem. » Et que de la postérité que l'Éternel te donnera de cette jeune femme, ta maison soit comme la maison de Pérets, que Tamar enfanta à Juda. » Et Boaz prit Ruth, et elle fut sa femme, et il vint vers elle, et l'Éternel lui donna de concevoir, et elle enfanta un fils. Et les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel, qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'un homme qui ait le droit de rachat, et que son nom soit nommé en Israël. Et il sera pour toi un restaurateur de ton âme et un soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » Et Naomi prit l'enfant et le mit dans son sein, et elle lui tint un lieu de nourrice. Et les voisines lui donnèrent un nom, disant, un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent du nom d'Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Et ce sont ici les générations de Pérets. Pérets engendra Hetsron, et Hetsron engendra Ram, et Ram engendra Aminadab, et Aminadab engendra Nakshon, et Nakshon engendra Salma, et Salmon engendra Boaz, et Boaz engendra Obed, et Obed engendra Isaïe, et Isaïe engendra David. »
La dernière fois, nous avons commencé le chapitre 4 de Ruth. On a parlé à peu près jusqu'au verset 12. Bien qu'il y ait des choses à ajouter, certainement. a dit que le chapitre 3 nous a parlé du repos et du bonheur. Et pour Ruth, c'était d'être aux pieds de Boaz pendant la nuit. Et pour nous, c'est de jouir de la présence du Seigneur Jésus. Le chapitre 4 nous parle de l'union entre Ruth et Boaz. Et en image pour nous, l'union avec Christ. Autrefois, les affaires importantes se traitaient à la porte. Boaz se rend là au début du chapitre pour que ce rachat soit scellé en présence de témoins, par les anciens, selon la loi de Moïse. Nous voyons que Ruth n'a rien à faire pendant ce temps. Christ est mort pour nous, mais de notre côté, nous n'avons rien à faire, aucune œuvre de loi. Nous avons rappelé ici la même image que la perle de grand prix de Matthieu 13. Christ a tout vendu pour acheter la perle. Au verset 6, le plus proche parent ne peut pas racheter pour ne pas ruiner son héritage. Nous avons dit que c'est une image de la loi incapable de nous sauver et de nous faire vivre par elle-même. Mais Boaz a le désir de rester après cet homme, d'être après lui. Le Seigneur a toujours montré que la loi était sainte et bonne. Il l'a entièrement accomplie. Il était plus grand que la loi. En lui est la force de racheter. Lorsque la loi ne pouvait pas le faire, Christ l'a fait. Nous voyons la grandeur du Seigneur lorsque cet homme délie sa sandale et lui donne et lui dit « Achète pour toi ». Alors, nous voyons immédiatement au verset 11 le peuple ajouter des souhaits pour Ruth et pour Boaz. Nous voyons au verset 11 Rachel et Léa. Nous avons dit que ça nous parle de la prochaine restauration d'Israël. Et aussi Tamar et Pérets qui nous parlent de la période de la grâce. Nous avons parlé succinctement du mariage et nous avons dit que peut-être on pourrait continuer, terminer le chapitre et parler de ce sujet aussi aujourd'hui.
En notant la sandale, voyons que l'homme transmet son droit de rachat à Boaz, c'est-à-dire au fond que la loi cède ses droits à Christ, qui est le vrai rédempteur. Et à travers ce rachat, nous voyons l'union de Boaz avec Ruth, qui est une préfiguration de l'histoire de Christ et de l'Église. C'est-à-dire que Dieu nous accorde, pendant la période de la grâce, nous accorde cette grâce d'être non seulement sauvés, d'être délivrés, d'être racheté, mais aussi d'être uni à Christ et d'être uni indissolublement à Christ. Et nous pouvons voir dans cette union de Boaz et de Ruth, cette préfiguration de notre union avec Christ. Boaz n'a pas acquis Ruth pour être pour être son esclave, mais pour être sa femme. Nous voyons au verset 10, et aussi, je me suis acquis pour femme Ruth la Moabite, la femme de Mahlon, pour relever le nom du défunt sur son héritage, afin que le nom du défunt ne soit pas retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoin aujourd'hui. Et au verset 13, et Boaz prit Ruth, et elle fut sa femme. Nous avons bien sûr un exemple de ce qu'est le mariage. Sans aucun doute, le mariage devant Dieu, mais nous voyons que en réalité, le mariage est réalisé devant les autorités civiles. Le mariage de Boaz et de Ruth, donc nous voyons les 10 anciens qui sont témoins, ainsi que tout le peuple, et cette union donc est entérinée devant les anciens qui administrent donc, qui gouvernent à la porte de la ville selon le droit et la justice en Israël. Nous savons qu'aujourd'hui le mariage est battu en brèche et il serait peut-être bon de relire dans la Genèse ce qui nous est dit sur le mariage. Dans le chapitre 2 de la Genèse, au chapitre 2, verset 21, « Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, et il dormit, et il prit une de ses côtes, et il enferma la place avec de la chair. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Cette fois, celle-ci est os de mes os et chair de ma chair, celle-ci sera appelée femme, Isha, parce qu'elle a été prise de l'homme, Ish. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. » Nous voyons donc que le mariage est une institution divine dès le commencement, dès la Genèse. Et Adam et Ève forment ensemble la première famille humaine, le premier foyer. Et Dieu avait certainement en vue que la structure social de l'humanité soit basé sur l'unité de la famille, c'est-à-dire un homme et une femme. Et la famille devait être donc un lieu fort, un refuge selon Dieu, et au fond la base de toute civilisation. Et nous voyons aujourd'hui que ce qui était dès le commencement est remis en question. On parle maintenant de non-mariage, de vivre l'un avec l'autre selon son bon plaisir, mais sans réaliser que c'est au fond une institution que Dieu avait donnée dès le commencement. Et donc, nous voyons que Dieu, dans sa sagesse parfaite, donne à Adam une épouse, et comme cela nous est dit, une aide qui lui corresponde. Et ce qui est frappant, c'est qu'elle est tirée d'Adam lui-même, et cela nous parle au fond de la signification profonde du mariage. La place de la femme, donc, est auprès de l'homme, tout près de lui, sa compagne, sa conseillère et l'objet de son amour. Voyons donc que l'Éternel Dieu forme une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amène vers l'homme. Et bien sûr, il s'agit aussi d'une image de la naissance de l'Église qui est une conséquence de la mort de Christ, qui est de la mort du Seigneur. Dans ce verset 21, il nous est dit « Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme et il dormit ». C'est-à-dire, au fond, ce sommeil nous parle de la mort de Christ à la croix, et la conséquence immédiate de ce profond sommeil, c'est que Dieu va tirer une femme de la côte d'Adam. Et donc, nous voyons déjà à l'origine la première image, ou une des premières images de Christ et de l'Église. Alors, dans un sens, dans le livre de Ruth, nous voyons plutôt l'union d'Israël, l'épouse terrestre de Christ, avec Boaz. Et l'union donc de Boaz et de Ruth, dans une première signification, bien sûr, nous parle de cette union entre Christ et entre le bien-aimé et la bien-aimée du Cantique des Cantiques, Ruth qui vient des nations, et elle représente donc aussi la restauration finale d'Israël dans ce mariage entre Boaz et Ruth.
Hébreux 13, au verset 4, il est dit que le mariage soit tenu en honneur à tous égards et le lit sans souillure. Que le mariage soit tenu en honneur à tous égards, c'est-à-dire chez tous, parmi tous.
Juste une remarque en rapport avec ce qui a été vu au début, avec la loi qui cède la place à Christ. Je mentionne le verset de Romains 7, verset 4. Romains 7, verset 4. « C'est pourquoi, mes frères, vous aussi, vous avez été mis à mort à la loi par le corps du Christ pour être à un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions du fruit pour Dieu. » Et ce beau verset de Romains 7, verset 4, on pourrait dire qu'il est illustré par Ruth, chapitre 4, où on voit donc que, ici dans Romains, le croyant n'est plus sous la loi, non pas parce que la loi est mauvaise, mais parce que le croyant est mis à mort à la loi. C'est une nuance qui est très importante et qui mérite d'être approfondie. Si nous ne sommes plus sous la loi, ce n'est pas que la loi est mauvaise, mais c'est que nous avons été mis à mort à la loi. Et le but, pour que vous soyez à un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts. Donc comme Ruth a été donnée à Boaz, Boaz, l'homme puissant et riche, l'homme qui typifie Christ ressuscité. Et donc ce verset de Romains 7, verset 4, me semble aller très bien avec le chapitre de Ruth, chapitre 4 de Ruth. Sur la question du mariage, donc il a été mentionné que donc Boaz prit Ruth, et on a vu en Genèse 2 le mariage en fait qui a été institué par Dieu dans le jardin d'Éden. C'était encore le temps de l'innocence, c'était le paradis terrestre, et Dieu a donné cette relation à cette occasion-là. Et en contraste, la relation de parent avec enfant, elle n'apparaît pas dans le jardin d'Éden, mais elle n'apparaît qu'après la chute, en Genèse chapitre 4. Et donc on peut dire que cette relation du mariage, elle a une valeur toute particulière, déjà dans ce sens que c'est la relation qui a été donnée dans le paradis terrestre, en dehors de toute question de péché. Et puis aussi, elle est rehaussée dans le sens que le Seigneur, l'apôtre Paul, utilise cette relation du mariage pour décrire en fait la relation de Christ et de l'Assemblée, notamment en Éphésiens 5. Donc on voit par là la beauté, le prix, la grandeur de ce sujet, le mariage, et c'est quelque chose d'absolument pur, d'une beauté pure. Et c'est important pour nous, et comme on l'a dit, on est dans un monde qui rejette cette notion, qui la méprise. C'est important de la garder en voyant la beauté, la grandeur de cette notion, de ce sujet, donc institué dans le jardin d'Éden et rehaussé par la relation de Christ et de l'Assemblée. Et on a dit donc c'est un homme et une femme. Et c'est peut-être nécessaire de réinsister là-dessus, et on est toujours un peu gêné de parler de ça devant les plus anciens, les plus âgés. C'était des sujets dont on avait honte de parler il y a peut-être des décennies. Mais aujourd'hui, étant donné le monde dans lequel on est, il me semble qu'on est obligé de le préciser, de le dire. C'est un homme et une femme. Ce n'est pas deux hommes, ce n'est pas deux femmes. C'est un homme et une femme. Et tout le reste, c'est une abomination aux yeux de Dieu. C'est dit dans l'Ancien Testament. C'est aussi dit dans le Nouveau Testament, donc ce n'est pas une question de loi, de grâce, c'est une question du Dieu créateur. Toute relation entre deux hommes ou deux femmes est une abomination aux yeux de Dieu. Et on voit en fait que, étant donné la beauté, la pureté de ce sujet, on comprend qu'il y a un effort de l'adversaire pour nuire, pour salir, pour dégrader ce sujet. À nous d'être spécialement vigilant pour garder et pratiquer les choses selon la pensée de Dieu. On peut dire aussi, donc on a insisté sur le fait que l'union, ici, avec peut-être le cas particulier du rachat, elle a été d'abord établie officiellement devant les anciens de la ville. Et pour nous, aujourd'hui, dans notre pays, le mariage, c'est à la mairie, selon les lois de notre pays. En France, eh bien, le mariage, il est établi à la mairie devant les autorités de notre pays. Donc, c'est par là, comme il est écrit dans Romains 13, verset 1, les autorités sont établies par Dieu, et nous avons à nous y soumettre. Et donc, puisque dans notre pays, le mariage, il est à la mairie, selon les autorités de notre pays, il nous convient de passer par là pour établir nos relations. Et puis, il est dit, elle fut sa femme et il vint vers elle. Et on remarque l'ordre. D'abord, elle est sa femme et après, il vint vers elle. Et là aussi, on voit la dignité de la parole de Dieu, la façon dont elle parle de certaines choses, en nous faisant comprendre clairement de quoi elle parle, mais avec une dignité, une noblesse, sans vulgarité. et on comprend bien qu'il s'agit de la relation corporelle entre l'homme et la femme. Eh bien, cet exemple, et il y en a d'autres exemples, comme notamment le cas de Joseph et de Marie dans Matthieu chapitre 1, nous montre clairement que les relations corporelles, les relations physiques entre un homme et une femme, c'est dans le cadre du mariage. Et là, on voit bien que les relations, elles ont lieu, les relations physiques entre l'homme et la femme, elles ont lieu une fois que Ruth est devenue sa femme. Et là aussi, je sais bien, je dis ça à nos enfants, aux jeunes, de dire ça, de croire ça, de vouloir maintenir ça, ça fera de vous, ça fait de nous des personnes un peu ridicules dans le monde, c'est clair. Mais par fidélité envers notre Seigneur, gardons, vivons ce que Dieu nous a proposé, ce que Dieu nous place devant nous, et ça sera une bénédiction pour nous. Et quand il est dit, il vint vers elle, donc il y a, disait, cette noblesse de la façon dont Dieu parle d'un sujet, et on a un peu la même chose si on retourne dans la Genèse, au chapitre 4, entre Adam et Ève. Il est dit, Genèse 4, verset 1, il est dit, « Et l'homme connut Ève, sa femme, et elle conçut. » Et on relevons la beauté, la façon dont Dieu parle de la relation physique. Il ne dit pas, justement, « L'homme eut une relation physique avec la femme et elle conçut. » Il dit, « L'homme connut Ève, sa femme. » Et en Ruth, il vint vers elle. Mais la Genèse 4, verset 1, l'homme connut sa femme, c'est d'une beauté particulière, parce qu'en fait, on voit que, aux yeux de Dieu, la relation entre l'homme et la femme, c'est pas comme deux animaux qui s'accouplent, mais il y a l'homme qui connaît sa femme, dans le sens qu'il s'intéresse à elle, esprit, âme, corps, mais c'est un ensemble, une unité. Ce n'est pas simplement des relations comme des animaux pourraient avoir entre eux, mais il y a l'homme connaît sa femme. Il y a, sous-entendu, tout un échange au préalable, un échange spirituel, un échange de sentiments, de pensées, et puis ensuite, il y a la relation physique. Et bien ça, c'est important pour nous qui sommes mariés, de réaliser que les relations qu'on peut avoir dans le cadre du mariage, elles sont nobles, elles sont pures, et désirons les pratiquer selon les enseignements de Dieu, avec cette même dignité, avec cette pureté, telle que la Bible nous les présente.
On pourrait lire juste Éphésiens 5, versets 31 et 32.
Éphésiens 5, versets 31 et 32. C'est pour cela que l'homme laissera son père et sa mère et sera joint à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ce mystère est grand, mais moi je parle relativement à Christ et à l'Assemblée.
Juste une remarque, et Boaz prit Ruth, c'est-à-dire que Boaz y prend Ruth et il l'amène dans sa maison. La place de Ruth maintenant est dans la maison de Boaz. Et dans sa maison, à son côté.
quand il est dit ensuite, et l'Éternel lui donna de concevoir et elle enfanta un fils. On remarque aussi la beauté de cette expression, et l'Éternel lui donna de concevoir. Le fait qu'elle ait conçu, c'est Dieu qui donne, et c'est dans sa grâce qu'il donne. Et cela nous rappelle que la vie, c'est un don de Dieu, et même la vie naturelle. Le fait que nous ayons des enfants, c'est un don de Dieu. Et on peut citer un beau verset dans le psaume 127, où il est dit, psaume 127, psaume 128, ce sont deux psaumes à lire en rapport avec la vie de famille. Et il est dit, psaume 127, verset 3, « Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel, et le fruit du ventre est une récompense. » Donc on voit que c'est Dieu qui donne les enfants. Et il peut y avoir des couples qui n'ont pas d'enfants. Et c'est un sujet certainement d'épreuves et de difficultés, et nous pouvons prier pour eux. Et on voit peut-être que Dieu a d'autres choses en vue pour eux, et des choses peut-être meilleures ou différentes. Mais on voit et retenons que d'avoir des enfants, c'est un don de Dieu. Et là aussi, je mentionne le fait que ceux qui écoutent un peu ce qui se passe dans le monde, c'est des sujets qui sont un petit peu délicats, parce que le monde propose, et je ne veux pas être catégorique en critiquant ceci ou cela, mais simplement attirer l'attention, et réfléchissons sur ce que le monde propose, par exemple, ce qu'on appelle les procréations médicalement assistées, PMA. Et même dans certains pays, pas encore en France, mais il y a ce qu'on appelle les gestations pour autrui, GPA. Ce sont des choses que le monde fait pour qu'il y ait des enfants, mais ce n'est pas ce qu'on voit ici. Et l'Éternel donna de concevoir. Et gardons précieusement cette vérité que c'est Dieu qui donne des enfants. Dieu dans sa bonté, Dieu dans sa grâce, il est celui qui donne la vie. Et on voit dans beaucoup de cas, dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament, des femmes ont été très exercées parce qu'elles n'avaient pas d'enfants, parce qu'elles étaient stériles. Et il y a eu de profonds exercices liés à la stérilité, et l'Éternel a fait souvent tourner ces exercices en bénédiction, à plus d'un titre, plus d'une manière. Et retenons aussi voilà, que si Dieu retient pour un moment le fait qu'il y ait des enfants, eh bien, il a en vue aussi toujours notre bien, notre bénédiction, peut-être d'une manière autre, mais retenons que c'est Dieu qui donne la vie.
Peut-être je voulais juste ajouter ceci quant à ce verset de Genèse 2 au verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils seront une seule chair. Qui est repris dans le chapitre 5 d'Éphésiens que nous avons lu. C'est pour cela que l'homme laissera son père et sa mère et sera joint à sa femme. Et les deux seront une seule chair. Je voulais juste indiquer deux choses là-dessus. Autour de nous, et nous nous y habituons certainement, il se passe exactement le contraire de cet ordre-là. Déjà, on est une seule chair. Ensuite, si on peut dire, dans beaucoup de cas, on s'attache à sa femme, mais avec l'esprit et souvent pas l'âme même. Et à la fin, peut-être, on habite ensemble. L'homme quittera son père et sa mère. Et il ne faut pas que ça nous atteigne comme étant une normalité. Dieu créateur a prévu que ce soit dans l'autre ordre que ça se passe, et certainement c'est comme ça que un homme et une femme s'unissent vraiment, vraiment. Et nous pouvons le voir, bien sûr, dans notre exemple, dans Ruth. Boaz était un homme autonome sur tous les plans. Il s'est attaché à Ruth et ensuite, l'ayant pris en mariage, ils ont été une seule chair. Et nous pouvons encore le voir d'une autre manière. Entre le Seigneur Jésus et son épouse, combien nous pouvons dire que il a quitté d'une certaine manière les gloires célestes et son Père pour venir sur la terre s'attacher très spécialement à nous, à sa femme. Nous sommes fiancés maintenant, nous sommes promis au Seigneur. Et alors quand nous le verrons après les noces de l'agneau, nous serons une seule chair.
Juste une remarque à propos de Ruth. Ruth avait été stérile jusque-là. Elle n'a pas eu d'enfant de son premier mari, qui est mort. Et jusque-là, elle n'a pas donné d'enfant, elle n'a pas conçu. Et on peut faire le parallèle, cela a été fait. Tant que nous n'avons pas connu le Seigneur personnellement, eh bien, nous ne pouvons rien produire, aucun fruit pour Dieu. Nous sommes stériles tant que nous n'avons pas connu le Seigneur personnellement.
Dans les versets 14 et 15, on voit les femmes qui parlent à Naomi et on peut souligner cet aspect de la communion qu'il y a entre ces femmes et Naomi, de la joie partagée. Il y a un grand sujet de joie. Après ce mariage, il y a cette naissance et la joie est partagée. Et on voit ces femmes qui s'associent complètement à la joie de Ruth, de Naomi. Et on voit que la bénédiction qu'elles expriment, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'un homme qui ait le droit de rachat et que son nom soit nommé en Israël. » Alors on aurait peut-être l'impression qu'il s'agit de Boaz. Alors la note nous dit que ça se rapporte au fils de Ruth et il semble que ce soit le verset 15 qui le précise parce qu'il est dit « Et il sera pour toi un restaurateur de ton âme » et un soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que sept fils. » Donc il y a la joie pour Naomi d'avoir ce petit-fils, et ce petit-fils sujet de joie, et aussi comme restaurateur de son âme, verset 15, et soutien de ta vieillesse. Une joie pour cette femme âgée qui a connu l'amertume dans sa vie, mais la grâce de Dieu triomphe à la fin et il y a cette bénédiction, cette communion et cette joie dans ce que l'Éternel a fait, a produit.
Et si on revient au début de ce livre, au chapitre 1er, verset 13, au milieu, « Non, mes filles, car je suis dans une plus grande amertume que vous, car la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Et verset 21, verset 20, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Je m'en allais comblé et l'Éternel me ramena vide. Pourquoi m'appelez-vous Naomi quand l'Éternel m'a abattu et que le Tout-Puissant m'a affligé ?» Et dans ces deux versets-là qu'on vient de considérer, 14 et 15, on a le contraste, on a la réponse de Dieu qui a fait passer Naomi par ce temps au désert, ce temps de l'amertume, ce temps du sentiment d'avoir tout manqué dans sa vie, ce sentiment d'avoir plus rien devant elle. Et là, on a cette réponse, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui, etc. » Tout ce dont tu avais le sentiment d'être privé, je l'avais préparé. Il y avait le temps où ce serait de nouveau là. Et puis en parallèle à ça, on peut voir le lien au verset 12. Les anciens ont mentionné que ta maison, parlons à Obed, soit comme la maison de Pérez que Tamar enfanta à Judas. Tamar est mis en parallèle avec Ruth. L'étrangère, celle qui n'a pas droit de citer en Israël, qui est accueillie et qui est le moyen que Dieu utilise dans cette généalogie qu'on a à la fin du chapitre.
Et ces deux femmes, Tamar et Ruth, elles font partie de ces quatre femmes qui sont mentionnées dans la généalogie du Seigneur en Matthieu chapitre 1. Donc il y a aussi Rahab, la prostituée. Si on prend Matthieu 1, je le mentionne juste. Dans la généalogie du Seigneur en Matthieu, il y a quatre femmes qui sont mentionnées. Et ces quatre femmes, elles sont chacune, elles nous montrent quelque chose de la grâce de Dieu. Alors ce n'est pas le moment de développer, mais on peut lire des articles à ce sujet. Il y a Tamar, Matthieu 1, verset 3. Il y a Rahab ou Rakab au verset 5. Il y a Ruth au verset 5. Et il y a, verset 6, celle qui avait été la femme d'Uri, c'est Bathsheba. Et donc ce sont ces quatre femmes qui, naturellement, auraient mérité d'être mises à l'écart d'Israël ou à cause de leur péché. Et elles ont été les quatre, les objets de la grâce de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Et on en retrouve deux ici dans notre chapitre. Et puis aussi, ce qu'on peut mentionner, c'est que ce soit au verset 17 ou que ce soit au verset 22, on voit qu'il semble que tout aboutisse à David. Et que la pensée de Dieu, en fait, dans ce livre de Ruth, c'était d'amener David. Et David, c'est le roi selon le cœur de Dieu, le roi que Dieu donne dans sa grâce. C'est pas Saül. Saül, c'est le premier roi, et était le roi selon le choix de l'homme. Mais Dieu avait en vue quelqu'un d'autre. Il a d'abord laissé les hommes, dans le premier livre de Samuel, choisir leur roi, et ils ont choisi Saül. Mais Dieu n'a pas été pris au dépourvu. Il avait à l'avance quelqu'un d'autre en vue, c'était David, et c'est très clair dans le livre de Ruth, fin du verset 17, fin du verset 22, dans ce livre qui parle de la grâce de Dieu, on voit que Dieu avait en vue la royauté, et la royauté à travers David.
Et je veux encore juste relever, au verset 15 à la fin, il est parlé de Ruth, « Car ta belle-fille qui t'aime », la seule fois que le mot « d'aimer » apparaît. Et il n'apparaît pas entre Ruth et Boaz, entre Boaz et Ruth, il apparaît entre Ruth, de Ruth vis-à-vis de sa belle-mère. Et puis alors j'aurais une question. Le rachat, il s'agissait de donner une descendance à celui qui était décédé. En l'occurrence, ici, c'est Élimélec. Or, Obed est compté comme fils de Boaz, et pas comme fils d'Élimélec. Pourquoi ?
Au-delà de la généalogie de David.
Il y a une autre question aussi qu'on peut se poser, je n'ai pas de réponse non plus, c'est que, voyons, les femmes qui, au fond, qui félicitent Naomi, ne félicitent pas Ruth, et pourtant c'est Ruth qui a enfanté.
Ruth était une pauvre femme, une misérable. Mais Dieu l'a fait asseoir avec les nobles. On peut simplement lire 1 Samuel 2, le verset 8.
Samuel chapitre 2, verset 8. De la poussière. Il fait lever le misérable de dessus le fumier. Il élève le pauvre pour les faire asseoir avec les nobles. Et il leur donne en héritage un trône de gloire, car les piliers de la terre sont à l'Éternel. Et sur eux, il a posé le monde.
À ce propos, on peut lire dans l'Exode, au chapitre 33, il avait été donné donc la loi de Moïse, mais nous voyons aussi que au chapitre 33, verset 19, c'est Dieu qui dit « Et je ferai grâce à qui je ferai grâce, et je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde. » Et nous pouvons appliquer ce verset, bien sûr, à l'histoire de Ruth. C'est-à-dire que malgré la misère de l'homme, malgré la misère du peuple d'Israël, voyons que les desseins de Dieu en grâce s'accomplissent selon sa volonté. Et si dans sa souveraineté, Dieu veut bénir et veut faire grâce, eh bien, je ferai grâce à qui je ferai grâce. Et je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde. Et nous voyons qu'une étrangère est ainsi introduite dans les bénédictions du peuple d'Israël, du peuple de Dieu. Et il s'agit bien sûr du couronnement de la foi de Ruth, la Moabite, et elle va pouvoir prendre place dans la lignée du Messie. Encore une remarque sur cette expression, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Avoir 7 fils, c'était une bénédiction sur la terre de la part de Dieu, et en particulier dans le peuple d'Israël. Et là, la bénédiction qui est annoncée par ces femmes, c'est pour toi mieux que 7 fils. Et nous voyons aussi à travers ce qui nous est dit, que c'est, comme l'a exprimé Jacques tout à l'heure, que c'est la fin de l'épreuve de Naomi. Si nous lisons en particulier dans Job, au premier chapitre, nous voyons la même chose. Dans le livre de Job, page 374, et au premier chapitre, il y avait dans le pays d'Utz un homme dont le nom était Job, et cet homme était parfait et droit, craignant Dieu et se retirant du mal, et il lui naquit 7 fils et 3 filles. Voyons que Job était particulièrement béni, il avait eu donc 7 fils. Et nous savons que ses fils et ses filles vont lui être repris. Et pendant de longs chapitres, nous pouvons considérer l'épreuve de Job. Mais à la fin de l'épreuve, si nous disons dans le dernier chapitre, chapitre 42, verset 12. Et l'Éternel bénit la fin de Job plus que son commencement, et il eut 14 000 brebis et 6 000 chameaux, et 1 000 paires de bœufs et 1 000 ânesses, et il eut 7 fils et 3 filles. Si Dieu nous fait traverser une épreuve, et cette épreuve peut être longue, nous voyons que la fin de l'épreuve, c'est aussi une nouvelle bénédiction, puisqu'il nous est dit que Job eut 7 fils et 3 filles.
On peut aussi dire que par rapport au chiffre 7, dans la Bible, c'est le chiffre de la perfection divine. Et ce qui est intéressant aussi, et ce qui revient aussi à ce que tout à l'heure on disait par rapport aux 4 femmes qui sont nommées dans la généalogie en Matthieu, qui avaient normalement pas de droit. Naomi avait eu 2 fils, les 2 sont décédés, Maclon et Kilion, et ils n'ont pas pu donner de descendance, et sa belle-fille, qui n'était pas de sa famille, elle valait plus que 7 fils. Donc c'est très intéressant. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on les Sadducéens posent justement la question au Seigneur Jésus par rapport au rachat, qui ne croient pas à la résurrection. Ils lui font aussi une illustration d'une famille où il y avait 7 frères. Mais bon, ce n'est pas le sujet là. Et encore, juste, ce n'est pas la réponse à ce qu'on a, à la question qui a été posée, mais il y a un cas, donc pourquoi il s'appelle Obed et pas Elimelech ou comme son le premier mari de Ruth. On voit un cas de figure en Luc par rapport à la naissance de Jean. Il y avait aussi Zacharie et Élisabeth, et quand en Luc 1, au verset 59, il arriva qu'au 8e jour, ils vinrent pour circoncire le petit enfant, donc il s'agit de Jean, et il appelait Zacharie du nom de son père. Et sa mère répondant dit, « Non, mais il sera appelé Jean. » Parce que, si on se rappelle, l'ange avait dit à Zacharie qu'il devait s'appeler Jean. Et après, on continue, ils lui dirent, « Il n'y a personne dans ta parenté qui soit appelé de ce nom. » Et ils firent signe à son père qu'il déclara comme il voulait qu'il fût appelé. Et en demandant des tablettes, il écrivait disant, « Jean est son nom. » Ils en furent tous étonnés. Bon, ce n'est pas la réponse à la question, mais c'est aussi un cas de figure où Dieu a donné un nom, et même s'il n'existait pas dans la famille. Voilà, c'est juste un exemple auquel je pense.
Si je peux donner un élément de réponse, en fait, tu as donné la clé, hein, peut-être, Michel, en parlant avec le verset d'Exode 33. On a la même question qu'on peut poser par rapport à l'histoire du rachat. Si on prend les versets de Deutéronome 25, l'histoire de la sandale, c'est pour dénoncer un refus qui est inacceptable. Si le beau-frère refuse de racheter la veuve, c'est une honte. Et c'est la veuve qui doit prendre la sandale pour le déchausser et lui cracher dessus. C'est quelque chose de très violent. Là, on a une situation qui est totalement inversée. La sandale devient le signe de la transaction et celui qui avait rachat en premier est présenté comme ayant le choix. Si tu veux, si tu veux pas, et si tu veux pas, ben c'est le suivant qui prendra. C'est pas du tout dans le côté de Deutéronome 25 où on a ce côté refusé de racheter, de prendre cette place de Lévir, est au fond désobéir à Dieu. Et au fond, ce qu'on a là, c'est, si on prend ces deux éléments, bah Dieu fait miséricorde, en ce sens que, entre le Deutéronome et le livre de Ruth, on a le livre des juges. Chacun faisait ce qui est bon à ses yeux. Là, il nous est dit au verset 7, c'est qu'il y avait une coutume. La note nous dit un témoignage, une attestation. Donc au fond, une espèce de tradition établie où la loi de Dieu a été complètement déformée. Où Israël s'était écarté de ce que Dieu avait donné. Et Dieu utilise cette loi déformée pour faire miséricorde. Alors ce n'est pas la parole qui nous le dit, c'est quelque chose que c'est une explication que je suggère, mais voilà, avec prudence et...
Sur le verset 16, Naomi prit l'enfant et le mit dans son sein et elle lui tint lieu de nourrice. Il faut prendre le terme de nourrice en hébreu dans un sens général. C'est dans le sens de instruire, être un instructeur ou un protecteur. Et nous voyons que Naomi prend l'enfant et désire donc s'en occuper, le protéger et l'instruire, comme Loïs, la grand-mère de Timothée, a pu s'occuper de son petit-fils. Et c'est sans doute un rôle qui peut être pris par des sœurs vis-à-vis de leurs petits-enfants, c'est-à-dire un rôle particulier au sein de la famille, prendre soin d'enfants quand ils sont petits, les protéger, les instruire sur la parole de Dieu. Encore... une remarque sur le choix du nom de l'enfant, Obed. Là aussi, c'est une question. Ce sont les voisines qui choisissent le prénom ou le nom de l'enfant. Actuellement, ça n'existe pas. Et donc, il s'agit d'un choix remarquable, puisque Obed... Là aussi, en hébreu, veut dire adorateur ou serviteur. Et en ce qui nous concerne, nous sommes d'abord des adorateurs et ensuite des serviteurs. Et le nom choisi est vraiment un choix selon Dieu. Dans Matthieu 4, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4, au verset 10, à propos de la tentation du Seigneur par le diable, le Seigneur y cite Deutéronome et il dit, il est écrit, tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et nous voyons bien que le service, c'est d'abord l'adoration. Tu rendras hommage au Seigneur, ton Dieu, et ensuite tu le serviras lui seul. N'oublions jamais que notre premier des services, c'est l'adoration. Et nous savons que le Père en cherche de tel qu'il adore.
Cantique 69. 69.